a tout à fait un double discours. Les responsables politiques qui sont aux commandes aujourd'hui ne sont plus de la génération des fondateurs de la communauté européenne dans les années 50, ou même de la génération de ceux qui ont permis à l'intégration européenne de beaucoup progresser dans les années 80 et 90. Je pense que des gens comme Angela Merkel, comme Nicolas Sarkozy, comme Silvio Berlusconi n'ont pas du tout envie d'avoir des leaders politiques forts à l'échelle de l'Union européenne, capables de parler au nom de l'Union européenne dans le concert international. Ils sont d'accord sur l'idée qu'il faut un peu clarifier le positionnement de l'Union européenne, avoir des gens qui soient reconnus à l'international, mais leur priorité va vraiment au choix de personnes relativement effacées, de personnes qui ne vont pas essayer d'exercer un leadership ou de transformer les choses. Donc la reconduction de José Manuel Barroso en était un premier signe, puisque Barroso a été un président de la Commission relativement effacé, qui n'a pas essayé de rouler dans les brancards. Et je pense qu'ils veulent renouveler la même opération avec les autres nominations, celle de président du Conseil européen, celle de haut représentant, de façon à avoir des gens qui aient le sens du consensus et qui n'aient pas d'ambition trop grande dans l'exercice de ce mandat.
Le président du Conseil européen est-il vu plus comme un moteur ou juste comme un coordinateur du travail du Conseil, une sorte de super secrétaire en somme ?
Le traité est assez laconique quant aux fonctions de ce président du Conseil européen et c'est toujours le charme des traités européens, c'est-à-dire que tout est en devenir et qu'on peut, que finalement on pouvait imaginer soit d'avoir un président qui soit capable d'exercer un leadership, de mobiliser les énergies. Mais je crois que dans les circonstances actuelles, il y a un vrai consensus qui se dégage parmi les responsables des différents États membres, soit parce qu'ils sont un peu égotiques, soit parce qu'ils sont un peu eurosceptiques, pour avoir quelqu'un qui ait juste un rôle de coordination, une espèce de super secrétaire général, et certainement pas quelqu'un qui soit capable d'impulser de nouvelles initiatives ou de définir de nouveaux horizons pour l'intégration européenne. Maintenant, on peut toujours avoir des surprises, on peut avoir des personnes qui, une fois en place, mettent à profit l'indépendance que leur garantit les traités pour essayer de faire un peu davantage que ce qu'on attend d'eux. L'histoire de l'intégration européenne est comme ça jalonnée, je dirais, de mauvaises surprises pour les sceptiques qui ont découvert a posteriori que le choix de telle ou telle personne ne leur n'était pas très favorable et que ses personnalités étaient capables de prendre plus de liberté que ce qu'ils ne pensaient.
Concernant le haut représentant pour les affaires étrangères, il aura, lui, un peu plus de marge de manœuvre et il aura surtout le droit d'initiative. Est-ce qu'il n'y a pas justement alors un risque de collusion entre la politique qu'il pourrait mener et celle des États ?
Là, il risque d'y avoir pas mal de tensions et d'ajustements autour de la question du haut représentant parce que finalement, le président du Conseil européen aura un rôle qui sera éminemment symbolique d'organisation. Par contre, comme vous le dites, le haut représentant pour la paix, ce que pourra prendre les initiatives en matière de politique étrangère et de sécurité commune, et comme on sait bien, les compétences de l'Union en matière de politique étrangère ne se substituent pas à celles des États membres. Il y a une espèce d'action parallèle de l'Union d'un côté et des États membres de l'autre. Il n'y a pas vraiment de mécanisme de coordination des politiques étrangères des différents États membres. Ça reste vraiment un domaine de souveraineté pour chaque État. Et il est clair que s'il y a un acteur à l'échelle européenne qui est capable de prendre des initiatives sans forcément avoir le consensus des États derrière lui, ça risque de faire grincer des dents, soit parce qu'il y aura des interférences entre les politiques ou les initiatives décidées à l'échelle de l'Union et celles décidées au niveau national, soit parce qu'il y aura des interférences avec la politique de neutralité d'un certain nombre d'États membres. Je pense par exemple à la Suède, qui n'est pas très enthousiaste face au développement de la politique étrangère de l'Union européenne.